secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Lily Envar, avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, avec à la prise de son Jean-Richard Dufour. Aujourd'hui, nous recevons Marion Muller-Collard pour nous parler d'un autre Dieu. Un Dieu dont elle a découvert le visage au cours d'une épreuve et d'une multitude d'expériences de vie. Un autre Dieu qui se trouve au-delà de la plainte et de la menace, au-delà de la peur, des chiffres et de nos petits marchandages quotidiens. On peut dire qu'il s'agit du Dieu de la grâce. Marion Muller-Collard, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir quitté votre montagne des Vosges pour venir nous rendre visite aux racines du ciel.
Merci à vous.
Vous êtes théologienne protestante, et vous avez été longtemps aumônier à l'hôpital avant de décider que votre voix, V-O-I-E, ou votre voix, V-O-I-X, était l'écriture, et donc de vous y consacrer entièrement. Et en effet, en vous lisant, on se dit qu'il eût été bien dommage que vous n'écriviez point.
Merci.
Vous avez à ce jour publié plusieurs ouvrages, dont Prunelle de mes yeux chez Gallimard dans la collection Folio Junior en 2011 et Le professeur Freud parle aux poissons aux éditions Les Petits Platons en 2014. Alors ce titre est très amusant. Vous êtes aussi chroniqueuse au journal Réforme, ce qui vous permet évidemment de garder un contact avec vos études de théologie sans doute. Aujourd'hui, je vous reçois pour votre dernier livre, votre dernier ouvrage paru en 2014 et qui s'intitule « L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce » publié chez Labor et Fides dans la collection « Petite bibliothèque de spiritualité ». Alors, juste une petite parenthèse, je voudrais saluer au passage cet éditeur, vraiment, pour la qualité des textes, bien sûr, qu'il publie, mais aussi de l'extrême soin apporté à l'objet livre.
Oui, tout à fait. Oui.
Ces livres de chez Labor et Fites sont toujours beaux, sobres, agréables à tenir en main. Enfin, voilà, ça, c'est parenthèse fermée, parce que je tenais à dire que, voilà, cet éditeur qui est suisse, si je ne m'abuse, est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable, en tout cas dans le choix de ses textes et dans la présentation. En tout cas, ce texte que vous publiez là est un très court récit, dans lequel vous partez d'un témoignage personnel et du personnage de Job, ce qui vous relie à nouveau à vos études de théologie d'une certaine façon, pour réfléchir à votre relation au divin et analyser la manière dont nos peurs intimes et archaïques polluent en fait notre relation à Dieu et la dévie de ce qu'elle devrait être, à savoir au fond peut-être un pur abandon. Vous avez remporté pour ce livre Écriture et spiritualité, 2015, dans le genre essai, ce qui d'ailleurs est dommage, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus qu'un essai, ce livre. Et j'en profite pour dire que le prix Écriture et spiritualité, c'est le nouveau nom donné au prix des écrivains croyants. Et je fais désormais partie du jury, donc je suis particulièrement heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Mais commençons par le commencement. Quand avez-vous rencontré véritablement notre frère Job, comme vous l'appelez, pour la première fois ?
Pour la première fois, je devais avoir 16 ans. C'était l'époque où je commençais à m'intéresser à la philosophie. Et en m'intéressant à la philosophie, nécessairement, je m'intéressais à la question de Dieu. Donc j'ai commencé à lire la Bible dans cette période-là. J'étais assez torturée pour être fidèle à la caricature de mes 16 ans. Et je faisais du théâtre, et en trouvant ce texte de Job, il m'est apparu que c'était vraiment un texte exemplaire de dramaturgie. Donc je m'entraînais à dire par cœur ces monologues de Job. Ça a commencé comme ça, de façon un peu buccale en fait, sans forcément sonder plus profondément que cette espèce de pulsion du cri chez Job, qui est très forte, qui est très littéraire et qui est très théâtrale, en fin de compte.
Oui, et alors vous racontez, en fait, au début du livre, que ce job, un jour, vous l'avez retrouvé d'une certaine façon en réponse à une difficulté à laquelle vous étiez confronté en tant qu'aumônier. Oui. Alors racontez-nous un peu cette histoire.
Voilà, alors les premières mes premières épreuves de terrain, vous savez, l'université française a ce défaut de nous remplir la tête sans jamais nous permettre d'éprouver ce qui nous remplit la tête sur le terrain, dans le concret de la vie. L'université, la faculté de théologie a le même défaut, si bien que j'avais la tête bien remplie quand je suis arrivée pour la première fois sur le terrain, et pas n'importe quel terrain, puisque c'était l'hôpital, mon premier remplacement à l'époque. Il y en a qui vont au McDo pour gagner un peu d'argent pendant les mois d'été, et moi, comme j'étais théologienne, bah, je faisais des remplacements en fait en tant que pasteur en paroisse ou à l'hôpital. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée catapultée comme ça à 22, 23 ans dans des couloirs d'hôpitaux. Et on m'a envoyée vers une vieille dame. Et je sentais un peu de sadisme chez le personnel soignant qui m'envoyait. Je sentais que j'étais un petit peu la petite souris avec laquelle les gros chats, à qui on n'en racontait plus, avait envie de jouer cet après-midi-là. Ils m'ont dit « Allez donc voir, madame, une telle, là-bas, tout au bout du couloir. » Et voilà, et cette dame était finalement une dame en pleine dépression gériatrique, comme on appelle ça dans le jargon médical. Et simplement, ça signifiait qu'elle n'avait à la fois pas envie de visite et à la fois pas envie qu'on la quitte trop vite, donc elle était dans cette grande contradiction. Et elle était dans ce que j'appelle dans ce livre la plainte, c'est-à-dire non pas un petit cumul de déboires ou de plaintes ou de reproches, elle était dans ce cri rauque de Job, c'est quand la plainte n'a même plus d'objet, quand on n'est même plus en mesure de dire qu'est-ce qui nous rend si amer et qu'est-ce qui nous rend la succession des jours si insupportable.
Au fond, c'est une plainte qui concerne la vie elle-même, c'est une plainte d'être.
C'est une plainte existentielle. C'est finalement un livre par lequel j'aborde la question de la dépression dans son versant existentiel et pas seulement dans son versant psychanalytique, c'est-à-dire singulier, individuel, qui est un versant très très important, mais plutôt dans son versant existentiel et spirituel, c'est-à-dire y a-t-il des causes spirituelles finalement à la dépression? Et c'est le souvenir de cette dame à qui j'ai eu l'audace, et je ne sais pas d'où ça me venait, peut-être d'avoir juste 23 ans, de lire un extrait du livre de Job, c'est-à-dire un extrait sans appel, de désespoir profond, qui se finit mal, c'est-à-dire quelque chose de pas du tout vendeur, en fait, sur le plan religieux, comme vous l'avez souligné tout à l'heure aussi, en me demandant pourquoi je m'attachais à ce texte-là. Et pour moi, c'est ça qui faisait de Job le seul compagnon possible pour cette dame. Et ça a marché. À partir de là, elle s'est métamorphosée. C'est-à-dire que je pense que j'étais peut-être, en tout cas Job était le premier à ne pas lui servir un petit anxiolytique par verset biblique interposé, ou je pense que si je lui avais lu un psaume ou un récit de gloire, de transfiguration, de résurrection, elle m'aurait foutu à la porte directement et elle aurait eu raison. C'est ça qui me touche beaucoup chez Job, c'est qu'il n'y a pas d'édulcorant en fait. Et moi j'ai à cœur de replonger dans cette tradition biblique qui se paye pas notre tête, j'ai envie de dire, enfin qui est consciente, responsable et qui est en adéquation avec la dramaturgie que peut être aussi la vie humaine.
Mais alors ça, vous dites dans le livre que par instinct presque, vous avez touché votre Bible et vous vous êtes dit « mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire à cette dame ?» Mais par instinct, vous avez ouvert le livre de Job, parce que ça a évoqué en vous ce livre de Job que vous connaissiez si bien depuis votre adolescence, comme vous nous l'avez dit. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous avait parlé en école de théologie? Est-ce qu'on vous avait expliqué qu'on peut utiliser ce type de texte d'une certaine façon? C'est presque « dis-moi quelques versets et je serai sauvée ». Enfin, ça donne un peu cet effet. Mais est-ce qu'on vous forme à ça?
Je voudrais pas créer des conflits avec mes anciens professeurs. Non, nous sommes très bien formés sur le plan de l'exégèse. On parle l'hébreu, on apprend le grec, on apprend toutes les méthodes d'historico-critique. Il y a évidemment un verset de théologie pratique. On va peut-être étudier des différentes écoles de prédication. On avait eu des stages à l'hôpital, mais pour dire, c'est-à-dire, il n'y a pas de cours là-dessus, en fait. Il y avait des stages, on nous envoyait, on se cassait plus ou moins la gueule, et quand on revenait, on faisait le point. Et voilà, non, j'avais pas d'autorisation, je pense, que c'est ce qui fait, je me souviens du petit effroi que j'ai eu en faisant ça. Je me disais, je la relève ou je l'achève, en fait. Hein. Mmh. Bon, j'ai tenté le tout pour le tout.
Oui, et bon, il y a peut-être aussi la puissance opérante d'un texte qui est si ancien, qui a été à ce point... Finalement, assimilé à notre culture très profondément. C'est vrai qu'il y a d'innombrables livres qui s'inspirent de Job, soit pour dénigrer la religion définitivement, en disant bah, c'est quoi un dieu qui fait ça, Job, soit au contraire pour dire bah, en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, pas le moment où il se révolte, bien sûr, d'habitude, mais en tout cas il faut être soumis à la volonté de Dieu. Mais vous faites quand même une lecture très nouvelle de cette histoire de Job, parce que précisément vous ne vous mettez ni du côté des athées ou des anti-religieux qui disent oui, l'histoire de Job, comme l'histoire d'Abraham d'ailleurs, nous prouve que ce Dieu est un Dieu sanguinaire et atroce, puisqu'il fait subir ça à ses créatures, ni du côté de ceux qui disent mais non, mais les voies du Seigneur sont impénétrables et au fond, il faut s'abandonner à la volonté de Dieu et puis se taire et puis on finira bien par mourir, pour faire court. Vous trouvez une troisième voie? Comment vous la définiriez, cette troisième voie?
Alors, je ne pense pas que ce soit moi qui la trouve. Je pense que je suis héritière d'une culture, d'une lecture, et je suis aussi héritière d'expérience. C'est-à-dire, pour moi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas si spécifiquement un essai, dans le sens où je ne me considère pas tant théologienne que vivante, en fait. Que vigilante et attentive aux vivants autour de moi et observatrice. Pour moi, vous avez cité tout à l'heure la collection des petits Platons. Si j'aime travailler comme ça, c'est parce que je crois qu'une pensée juste doit pouvoir se raconter plutôt que s'expliquer. C'est aussi le pari de ce livre. C'est un récit plutôt qu'un essai. Mmh. Après, du point de vue conceptuel, puisqu'il faut aller par là, je suis clairement héritière déjà de la Kabbale, dont je parle à un moment donné, cette question du mal, elle a été posée, enfin, en tout temps, et cette réponse de la possibilité du retrait de Dieu, en fait, que Dieu n'en soit pas responsable, puisqu'en fin de compte, il n'est peut-être pas le Tout-Puissant que nous confessons dans le credo régulièrement. Ça, c'est pas si original que ça. Ça a commencé au bas mot, et peut-être j'ignore encore d'autres textes, mais avec Isaac Luria au XVIe siècle. Une pensée qu'on peut retrouver dans la tradition de la Kabbale. Ça a continué, bien sûr, avec Antionas, le concept de Dieu après Auschwitz. Donc, c'est pas si original que ça, si vous voulez.
Non, parce que c'est pas original quand on parle du mal radical. Et ce dont vous parlez, c'est vraiment une question métaphysique que j'avais l'intention de vous poser, mais puisque vous l'abordez, on peut l'aborder. Mais non, ce qui est très original, c'est de prendre Job et d'en faire une réponse dans des épreuves au quotidien, y compris quand on a une contravention sur sa voiture. C'est je vous cite. Et c'est là que ça devient intéressant, et là que ça devient original, à mon sens.
C'est impossible dans toute relation de pas passer un petit peu par la rétribution du marchandage, du chantage, et il me paraîtrait vain de vouloir renoncer complètement à cet aspect relationnel des choses. Et du coup, on est en incapacité totale de se représenter un autre type de relation avec Dieu, en fait. Et donc, il y a d'abord ce Job qui pense que, voilà, s'il va bien à la messe le dimanche, c'est tout à fait anachronique ce que je dis, mais c'est volontaire, il n'aura pas de contravention. S'il se gare mal une fois, Dieu lui pardonnera parce qu'il était bien à la messe le dimanche. Voilà, l'anachronie de la contravention et de la messe. Et ensuite, il y a un autre Job qui passe par l'effondrement de ce système rétributif, en fait. Et qui, du coup, ce qui est exemplaire chez Job, c'est qu'il pourrait dire... cesser instantanément de parler à Dieu. Comme j'ai rencontré beaucoup de gens le faire, c'est-à-dire se fermer totalement et dire en fait je me suis trompée, Dieu n'existe pas parce que j'étais bien à la messe et j'ai quand même eu une contravention, même s'il lui arrive des choses bien plus graves que ça. Et en fait, ce qui est admirable, c'est qu'en fait Job, c'est l'exemple de l'énergie du désespoir. Il arrive dans ce désespoir à réinvestir l'énergie de ce désespoir pour continuer à parler à Dieu. Et ce qui est aussi exemplaire et ce qui est très instructif, je pense, pour l'accompagnement en général, que ce soit à titre professionnel, pastoral ou à titre simplement amical, familial, c'est ce contre-exemple des amis qui, eux, en fait, parlent de Dieu, ont des théories sur Dieu, mais ne parlent plus à Dieu. Donc il y a, en fait, pour c'est quelque chose d'essentiel pour moi, c'est cette prévalence de la relation. C'est une relation conflictuelle que Job entretient avec cet ancien Dieu qui lui fait défaut, ce Dieu papa qui était censé garder la justice comme Job gardait l'honnêteté, l'intégrité dans sa vie. Donc ce Dieu à qui il continue à parler tout en intuitant que il parle dans le vide parce que peut-être que Dieu n'est pas ce Dieu-là.
Ce Dieu-là, voilà. C'est l'autre Dieu en réalité.
Ben petit à petit.
Qu'il va trouver à la
petit
fin.
Petit à petit, et il est dans une espèce de schizophrénie spirituelle parce que il, en fait, on le voit évoluer d'un discours de haine à l'égard de ce Dieu qu'il a trahi vers un discours ambivalent. Où il invoque un dieu qui devrait le défendre de ce dieu-là. Enfin, et petit à petit, il lâche en dessinant dans sa plainte, justement, dans le bouillonnement de cette plainte, en dessinant un autre dieu en creux, en fait.
Oui, mais en même temps, est-ce que pour arriver là, à ce point, c'est-à-dire pour faire cette traversée-là, il ne faut quand même pas une certaine dose d'abandon, puisque au départ, il accepte quand même ces épreuves. Pendant très longtemps, il les accepte, ces épreuves. Il dit, bon, ça vient de Dieu, c'est comme ça. Et puis, à un moment, il y a un point de rupture. Est-ce que ce point de rupture, il peut se faire si, dès le départ, on n'a pas la foi?
Si, dès le départ, on n'a pas la foi, je crois surtout que la foi ne peut pas se faire si, dès le départ, il n'y a pas un point de rupture, en fait. Je le formulerai à l'inverse.
Oui.
C'est que ça me paraît difficile de continuer à avancer sur ces modèles. C'est possible, hein, y a des vies qui peuvent justifier. On peut arriver à bidouiller, en fait, un récit de vie qui ne dément pas le système rétributif. Et j'ai entendu beaucoup de récits de vie dans mon métier. Il y a des récits de vie qui arrivent à se dire, finalement, qu'il y a une justice. Quitte à employer des arguments très très cruels, une telle, elle a un cancer, mais c'est normal parce que en fait, elle avait dit du mal de moi. Bon, justice.
Oui.
Justice rétributive, très bien. Bon, malgré tout, je pense que c'est difficile d'entrer dans l'abandon si à un moment donné, on ne renonce pas. En tout cas, c'est mon expérience et c'est aussi ce qui me semble avoir observé au chevet en fait des personnes malades ou en fin de vie. Si à un moment donné, on ne renonce pas à un système de sens aussi étroit que celui de la justice, en fin de compte.
Oui,
d'une justice immanente. Je ne crois pas en la justice immanente. Et je crois que la croyance en la justice immanente conduit à une surenchère du malheur, en fait. C'est qu'en plus d'être victime d'une maladie, d'un accident, d'un deuil, on va se sentir maudit. Comme si cette justice immanente avait décidé délibérément de ne pas opérer pour mon cas personnel. Et du coup, c'est vraiment cette lecture qui s'est affinée à mesure de mon ministère à l'hôpital et qui m'a permis de définir quelque chose un peu de ce qu'on appelle en allemand, la traduction allemande de Seelsorge, la cure d'âme, qui est d'essayer de revisiter avec les personnes quelles images ils ont de Dieu et si ce Dieu, cette image de Dieu les soutient ou les écrase en fait dans l'épreuve. Une image de Dieu. Bon, soyons pragmatiques. Si déjà on se donne la peine d'essayer d'avoir la foi contre toute raison valable de l'avoir, autant que ce soit un soutien. Et il se trouve que 2000 ans d'histoire du christianisme sont pas très convaincantes d'après ce que j'ai pu voir dans ce ministère, ouais.
Laudate pueri Domini.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lélie Onvar.
On parlait très souvent des expressions que les gens emploient et qui sont devenues des expressions très courantes, du genre « mais c'est pas juste, le bon Dieu vous le rendra ». Effectivement, on a dans notre... Même des choses très triviales, il nous arrive de dire « mais non, mais c'est pas juste ça ». Et vous expliquez, j'aime beaucoup ce passage, où vous expliquez qu'au fond, il n'y a rien qui soit injuste, puisque de toute façon, il n'est pas question que les choses soient justes. Au fond, c'est une catégorie qui n'existe pas pour vous, justice, pas justice.
Je crois pas. Ben, sur le plan humain, je pense que nous avons tous les efforts à fournir pour essayer de rétablir la justice, mais je ne crois pas. Je crois que Dieu est un désir de justice. Il est le désir de justice, mais il n'est pas le garant de la justice. Ou alors effectivement, qu'est-ce qu'il fout ? Enfin, c'est vraiment voilà. Après. Je le dis vraiment très sincèrement, moi je ne connais pas plus Dieu que quiconque d'autre, 9 ans de théologie n'y suffiront pas et l'éternité peut-être encore pas d'ailleurs non plus. De là où je me tiens, j'échafaude des hypothèses en fonction de ce que j'observe. Je me trompe peut-être, mais du coup je vois pas trop d'alternatives. S'il tient en main le monde avec effectivement l'option du dieu salopard, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas. Alors à ce compte-là, je meurs athée et fièrement, ou en tout cas totalement désolidarisée d'un dieu qui aurait les moyens de garantir la justice et qui, pour des raisons de pratiques religieuses, les garantit ou garantit pas. Et puis, de toute façon, c'est aberrant. Toute la lecture du monde, il suffit même de vivre une journée et de parler avec 10 personnes pour se rendre compte que ça ne marche pas. Donc
oui, c'est ça que vous montrez du doigt, vraiment, que vous touchez du doigt, je dirais, dans ce livre. Mais alors, justement, vous avez dit « de là où je me tiens ». Et c'est peut-être ça qui fait que votre livre est à ce point émouvant. Parce que de là où vous vous tenez, en réalité, vous avez commencé, non pas sur un sommet dans les montagnes, dans le massif des Vosges, mais sur un tas de linge. Mais racontez-nous pourquoi vous vous êtes retrouvé un jour sur un tas de linge dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser.
Donc cette histoire, il semblerait, avec maintenant une année de recul quasiment pile, qu'elle raconte une histoire plus fondamentale. Ma petite histoire à moi, elle a été d'avoir eu un fils, mon second fils, qui est né en parfaite santé et puis qui a attrapé un virus relativement bête et méchant, qui s'est avéré moins bête que prévu et plus méchant que prévu. Une bronchiolite au départ qui a dégénéré. Je dis, s'il y a des jeunes mamans qui m'entendent, que c'est très très rare et que ça se passe pas comme ça et qu'une bronchiolite, généralement, peut se soigner très facilement. Voilà. Dans le cas de Félix, ça a pris des proportions que les médecins ne se sont pas trop expliquées et qui l'ont conduit en fait à s'asphyxier sous mes yeux et à être amené en réanimation, vraiment dans une situation extrême, avec des grandes difficultés pour le réanimer, des grandes difficultés ensuite pour le maintenir et une grande incertitude quant à son devenir, d'abord vital, ensuite les séquelles. Voilà, donc ça a été des mois. Voilà, mais c'était des mois combatifs. C'était des mois combatifs et moi, dans l'action, j'assure relativement bien. Et simplement après, voilà, il s'en est sorti avec quelques éléments un peu miraculeux comme ça. Au même titre que la gravité n'avait pas été bien appréhendée par les médecins, sa façon de s'en sortir a été assez créative. Voilà, donc nous aurions dû baigner dans le bonheur et voilà. Et puis c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour moi. Il y a eu un contre-coup en fait, et ce contre-coup, c'est ce que j'appelle dans le livre la menace. En fait, tout l'enjeu de cette période d'après, d'abord c'était extrêmement culpabilisant de sombrer juste au moment où tout devait aller bien. Ça contrecarrait mes images de Superwoman que je m'étais fabriquée les mois précédents. J'étais très vexée en plus. Et l'enjeu, c'était de finalement d'avoir plongé dans la menace. C'est-à-dire, je pouvais plus vivre comme si le bonheur était garanti. Alors, je crois pas avoir jamais cru en un dieu rétributif consciemment, mais je pense que c'est une insistance dans l'inconscient collectif qui m'a tout de même prise aussi dans ces filets, d'une part. D'autre part, j'avais dû aménager d'autres systèmes, et ne serait-ce que moi, j'ai eu des enfants assez jeunes, personne d'autre n'en avait eu autour de moi, et je me posais pas de questions, il y avait quelque chose comme ça de naturel, c'était biologique, on était fait comme ça, l'homme, la femme, les enfants, gna gna. Et du coup, je voyais pas beaucoup plus loin que ça, et je voyais pas tout ce qui était possible. je le savais en théorie, je suis pas totalement bête, mais en même temps, il y a un monde, en fait. C'est même pas un monde, c'est une espèce de porte coupe-feu entre les incendies des autres et notre vie à nous. Et du coup, je me sentais pas vraiment concernée. Et le fait d'avoir pu vivre cette menace, même s'il s'en était bien sorti, n'en demeurait pas moins que ce qui repassait en boucle pour moi, c'était le fait que on pouvait perdre un enfant, en fait. On peut perdre un enfant, on peut vivre des drames absolus dans la vie, en fait. Et là, ça avait touché de très, très près. Et peut-être du plus près possible pour moi. Enfin, du plus intime, en plus. Il y a quelque chose aussi de charnel dans la relation à un bébé. Je pense que mon mari, il n'a pas vécu pareil. Il le dit d'ailleurs quand il lit le livre. Il dit, je mesure à quel point. Voilà, il y a aussi un truc de femme, de ventre. Mais du coup, peu importe, à la limite, je pense que chacun fait à un moment donné dans sa vie l'expérience d'une menace qui le frôle, qui peut tout emporter sur son passage. Moi, elle n'avait pas tout emporté, n'empêche qu'elle m'avait frôlé. Et qu'à partir de là, je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance, en fait, de cette menace. Mais entre ne plus vivre dans l'ignorance de la menace et continuer à vivre, en acceptant, en intégrant la menace, il y a eu un monde, il y a eu cette brisure, cette rupture qui est chez Job ce tas de fumier sur lequel il s'abandonne, et chez moi c'était ce tas de linge sale, parce que je me suis retrouvée sans même me voir faire, mais à petit abandonner, en fait, m'abandonner le quotidien et n'être plus capable de Tout m'était une montagne, en fait, et puis j'étais dans une espèce de brume dépressive comme ça, ou même faire une machine, c'était au-delà de mes forces, je n'y pensais pas.
Et ce que vous nous invitez à faire, c'est de voir pourquoi, quand on est submergé par la menace et que ça sort en plainte et en cri, comment on peut revoir les choses différemment, peut-être en leur donnant précisément une lumière spirituelle qui n'est pas du tout religieuse, et comment on peut mieux se connaître dans le sens où cette dépression montre qu'en réalité, notre relation à Dieu était une relation de marchandage,
une
de contrat. Vous appelez ça un contrat, en fait.
Voilà, une relation contractuelle, une relation pathologique. Une relation de couple qui ne serait que contractuelle, elle serait pathologique aussi. Si oui. La seule chose qui me lie à mon mari, c'est t'as fait à manger, c'est moi qui fais la vaisselle, ce serait pathologique. C'est là où ce qui est étonnant, c'est qu'on se rend bien compte dans nos relations humaines que oui, on peut pas totalement abolir l'aspect contractuel avec nos enfants, dans le système rétributif, la récompense, la stimulation, etc., dans nos couples, avec nos amis, professionnellement, mais on voit bien que la maladie, c'est quand il y a plus que ça, quand il y a plus que du contrat, quand la seule relation, c'est de parler. Fait en bas d'une page. Et pourtant, c'est ça notre relation à Dieu, en fin de compte.
Oui, et c'est ce que vous critiquez de manière très radicale. Et oui. En plus, vous dites, en plus, qui nous a dit que c'était le contrat? On n'a jamais été chez le notaire pour signer, que l'on sache.
Bah, pas moi.
Et alors qu'en fait, c'est vrai, finalement, même toutes les religiosités, des plus archaïques aux plus récentes, vous avez raison, sont basées là-dessus.
Mais je crois, oui, je crois. Je crois que c'est ça l'enjeu, en fait. Pour aujourd'hui, c'est ça qui fait aussi qu'il y a tant de conflits. C'est-à-dire que si l'autre me dit que mon contrat n'est pas valable, parce que lui, il a un autre contrat avec un autre dieu, j'ai envie de le tuer parce cet autre devient une figure d'insécurité pour moi. C'est-à-dire, il réinjecte de la menace, il fissure mon enclos protecteur. C'est très angoissant quand quelqu'un vient toucher au sens de votre vie, à là où vous avez mis toutes vos billes, en fait, au panier dans lequel vous avez mis tous vos œufs. C'est ça les conflits. Il me semble qu'on voit revenir très fortement en ce moment. C'est vraiment cette radicalisation du sens, ce désir farouche. Et je pense que ça a un lien avec la non-acceptation de la menace. La non-acceptation de la frustration, de la menace, de la différence, de l'altérité. Tout ça, c'est une même chose, en fait. Et il me semble que notre relation à Dieu, alors ça, c'est plutôt mon prochain livre, mais elle devrait pouvoir se réexprimer de façon horizontale, que cette transcendance, cette rencontre avec l'altérité profonde, avec quelque chose qui soit plus proche de l'amour que du contrat, cette insécurité de la relation avec Dieu, cette acceptation de Dieu pour rien. Satan pose cette question, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Il a raison de la poser, car en vérité, c'est pas pour rien que Job craint Dieu. Mais oui, aimer Dieu pour rien, par pure jouissance, par pure reconnaissance de la grâce de vivre plutôt que de n'avoir jamais vu le monde. si on ne commence pas à vivre ça dans la relation, dans cette relation de transcendance avec Dieu, il y a fort à parier que ce sera difficile de le vivre avec les autres. Et il me semble qu'il y a un problème avec les autres aussi.
Vous citez, je vais peut-être lire ces passages parce qu'ils sont très beaux, vous citez quelques passages de Job qui est en fait la réponse de Dieu à Job. Mm-hmm. Et dans sa réponse, ce qui vous guérit, c'est précisément que Dieu parle de sa toute-puissance. Mais c'est peut-être une toute-puissance plutôt créatrice que la toute-puissance de la justice et interventionniste du Dieu punisseur, évidemment. Mm-hmm. Mais cela dit, la toute-puissance, c'est aussi ce qui vous permet de sortir, qui permet peut-être à Job de sortir de cette relation mercantile qui est basée sur le fait que mon petit moi, je crois qu'il est au centre. Et d'un coup, Dieu lui répond, quelqu'un qui ferma deux battants sur l'océan quand il jaillissait du sein maternel, quand je lui donnais les brumes pour se vêtir et le langer de nuées sombres, j'ai brisé son élan par mon décret, j'ai verrouillé les deux battants et j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, pas plus loin, là s'arrêtera l'insolence de tes flots. As-tu un seul de tes jours commandé au matin et assigné l'aurore à sa place, pour qu'elle saisisse la terre par ses bords et en secoue les méchants? La terre alors prend forme comme l'argile sous le seau et tout surgit en habit de cérémonie. C'est vrai que c'est un très magnifique texte, très compliqué, parce que on voit que Dieu donne comme argument sa suprême puissance. Mmh. Il est au-delà de nos petits problèmes, fussent-ils terribles pour nous. Et en même temps, et vous le faites bien remarquer, il dit dans ce texte qu'il est le Shaddai, ça veut dire celui qui met... qui arrête, enfin qui dit arrête.
C'est
qui
une
dit,
interprétation rabbinique, oui. Parmi d'autres en fait.
Oui, mais je l'aime beaucoup. J'avoue que je l'aime beaucoup.
Mais je l'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs,
mais
ça
peut-être
a été...
expréciser pour nos auditeurs exactement.
En hébreu, on peut s'amuser beaucoup avec les lettres et les rabbins aiment s'amuser avec les lettres hébraïques et l'un d'entre eux s'est amusé à découper Shaddai de façon à ce que ça puisse dire celui qui dit ça suffit, Dai, ça veut dire ça terminé maintenant, suffit, comme on dirait à un enfant qui est en train de faire une bêtise. C'est juste, mais c'est ce qui m'a fasciné dans le livre de Job en l'étudiant donc pendant mon doctorat, c'était que ce Shaddai, donc il n'a dans aucun autre livre biblique autant d'occurrences que dans le livre de Job. Et paradoxalement, quand vous allez voir la Septante, donc la traduction grecque en fait du texte massorétique, vous tombez sur la traduction Pantocrator, donc tout puissant. Donc on a Shaddai, Shaddai, Shaddai en hébreu, on a Pantocrator, et donc on a tout puissant ensuite, évidemment, dans la Vulgate, dans les versions françaises, etc. Et non, c'est pas... Enfin, je réfute ce terme de tout puissant, ce n'est pas la traduction littérale de Shaddai, il y en a d'autres possibles, et c'est vraiment un parti pris théologique, et je crois effectivement que la puissance créatrice de Dieu, moi, m'a remise d'équerre, à un moment donné, remet Job d'équerre, dans effectivement cette... Alors, j'aime pas ce terme de relativisation, parce qu'il n'est pas possible de relativiser son immense chagrin que constitue la perte d'un enfant, ou plein d'autres choses.
La perte de tous ses enfants, dans ce cas.
La perte de tous ses enfants, ou même, je dirais, moi, par exemple, je me suis jamais remise d'avoir vu mon fils souffrir, même s'il grandit, qu'il est vivant. Il y a de l'insoutenable dans le fait qu'il ait dû souffrir comme ça. Ce sont des images qui sont insoutenables pour moi. Dès que j'y pense, c'est intolérable, ça reste intolérable. Néanmoins, le pari, pour moi, de la foi, c'est, à minima, c'est de dire, il y a une intention créatrice. Si Dieu est Dieu, il a eu cette intention, ce désir de quelque chose plutôt que rien. Ensuite, pourquoi ce quelque chose n'est pas parfait? Ça, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Simplement, il nous dit quand même que ce quelque chose n'a pas été créé de façon totalement anarchique. Et on le voit bien parce que il y a quand même des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent plutôt bien. Nous sommes pas trop mal faits, la Terre est pas trop mal faite. Oui, il y a des accidents, ça, j'ai pas de réponse à ça. Je garde ma foi est constituée de ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation est constitutif de la santé de ma foi. Pour moi, c'est mon option. Et voilà. Et en même temps, pour moi, la dépression, c'est de dire, comme dans ce premier monologue que j'avais lu à cette dame pour la rejoindre dans sa plainte, c'est de dire, mais puisque c'est comme ça, alors vraiment, c'est même pas seulement le suicide, mais c'est même vouloir que rien n'ait existé. C'est vouloir, c'est se dire pourquoi, pas seulement pourquoi je suis née, mais Dans mon travail de thèse, je montrais comment ce monologue de Job était une antithèse du récit créateur. Il dit que la ténèbre soit, alors que la première parole biblique, c'est que la lumière soit. Il veut réveiller Léviathan, qui est le monstre symbolique des forces du chaos, etc. Donc, je pense que ce que Dieu reproche à Job tout à la fin, d'un côté, il lui dit « tu as bien parlé », moi, je l'interprète comme « tu as bien fait de continuer à me parler
oui. ».
Mais par contre... Que tu te plaignes, ok, j'ai rien dit, mais tu vas pas m'expliquer que j'aurais pas dû créer le monde. En gros, c'est ça. Et moi, je continue, j'ai fini par dire que ceci était bon et je continue à le dire. Et je me dis que si un jour je vivais quelque chose de suffisamment dramatique pour que je ne puisse plus supporter de vivre et je me sens pas à l'abri de ça, peut-être que je pourrais supprimer ma vie tout en bénissant Dieu et en disant, il était bon que le monde soit. En dépit de mon destin à moi qui s'arrête là parce que j'en peux plus, parce que c'est intolérable, parce que l'intolérable existe. Ça, je veux pas du tout le laisser entendre autre chose que ça, en fait. Mais c'est le pari de la foi, c'est malgré tout, je resigne. Pour moi, le credo fondamental, c'est celui de Dieu à la fin de la création, qui ceci était bon à la fin de chaque jour. Et pour moi, le credo de base, c'est de pouvoir redire avec Dieu, tu l'as dit et je te crois.
Et c'est ce très beau moment de votre livre où effectivement vous regardez votre enfant et vous vous dites, même s'il s'en va, au fond le plus beau c'est qu'un jour il ait existé.
Mm-hmm.
Il ait été doté de vie et finalement ce qui compte c'est ça, c'est cette vie qui est donnée. Après...
Voilà.
Et je voudrais donc terminer cet entretien avec vous avec un texte que je vous ai apporté et justement qui reprend... Cette idée que vous expliquez dans votre livre, dont vous dites d'ailleurs qu'elle a été la première véritable prière de votre vie, ce qui pour une théologienne de formation est pas mal. En tout cas, c'est un texte de Vladimir Jankélévitch qui est extrait d'un texte qui s'intitule « La mort ». ». Mais vous allez voir qu'il y parle de la vie. « Du moment que quelqu'un est né, a vécu, il en restera toujours quelque chose, même si on ne peut pas dire quoi. » Nous ne pouvons plus faire désormais comme si ce quelqu'un était inexistant en général ou n'avait jamais été. Jusqu'au siècle des siècles, il faudra tenir compte de ce mystérieux avoir été. Le « déjà plus » n'est plus rien en effet. Mais on ne dirait pas « il n'est plus » s'il n'avait jamais été. Métaphysique est la différence entre « il n'est plus » et « il n'est pas ». Le plus rien est distinct à jamais du néant pur et simple. Il est sauvé de l'inexistence éternelle, sauvé pour l'éternité. Cet avoir été est comme le fantôme d'une petite fille inconnue, suppliciée et anéantie à Auschwitz. Un monde où le bref passage de cet enfant sur la terre a eu lieu diffère désormais irréductiblement et pour toujours d'un monde où il n'aurait pas eu lieu. Ce qui a été ne peut pas ne pas avoir été.
Je vous remercie, c'est un très beau texte.
Merci beaucoup, beaucoup Marion Muller-Collard. D'être venu aujourd'hui nous parler de ce très beau livre, L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce, publié donc chez Labor et Fides. Nous accueillons maintenant Virginie Larousse, rédactrice en chef de notre partenaire, Le Monde des Religions, pour l'agenda culturel. Bonjour Virginie. Que nous avez-vous apporté pour cette première agenda culturel ?
Bonjour Lélie. Alors pour cette première chronique, j'ai eu envie de vous faire partager le plaisir que j'ai eu de découvrir une exposition qui se tient en ce moment à Marseille, au MUCEM. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître le MUCEM, donc c'est le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est un musée relativement nouveau puisqu'il a été ouvert en 2013, année où Marseille avait donc été nommée capitale européenne de la culture. Et déjà, je voulais dire quand même un mot sur le site du MUCEM qui est absolument époustouflant.
Oui.
Je dis toujours que c'est un des endroits préférés de la planète, c'est dire. Le site est magnifique, ça ouvre sur le vieux port, face au Fort Saint-Jean, il y a une sorte de contraste entre la rondeur du fort et l'aspect cubique du monument qui a été donc construit avec cette dentelle de béton qui se reflète sur la mer. C'est un site vraiment tout à fait enchanteur, où on peut tout à fait d'ailleurs se promener, avoir des promenades méditatives, sans pour autant avoir forcément besoin de visiter l'exposition. Je pense que un simple détour au MUCEM est déjà, culturellement parlant, une ouverture vraiment sur cette Méditerranée qui a façonné nos cultures de ce bassin méditerranéen. Alors l'exposition dont je veux vous parler fait suite en fait à celle sur les lieux saints partagés qui était donc consacrée au monothéisme. Petit clin d'œil à cette exposition qui avait le mérite de mettre en lumière les points communs entre les grands monothéismes et non leurs divergences. Et par les temps qui courent, c'est vrai que ça fait du bien de découvrir les points de jonction et non les divergences et les conflits. Et donc cette exposition s'appelle Migration divine. Alors là, on n'est plus du tout sur les monothéismes. C'est un retour sur les grands polythéismes de l'Antiquité, avec donc une collection tout à fait exceptionnelle de 211 œuvres à peu près, qui viennent essentiellement de Genève, de la Fondation Gandour et des musées d'art et d'histoire de Genève. Alors déjà, les pièces présentées, que ce soit des pièces archéologiques, des œuvres d'art, sont absolument exceptionnelles et d'une richesse incomparable. Donc cette exposition propose un voyage dans le temps tout à fait impressionnant, puisque les œuvres s'échelonnent en fait du 3e millénaire avant notre ère au 3e siècle de notre ère. Donc vous voyez que c'est un voyage très long dans le temps et aussi dans l'espace, puisqu'on voyage de l'Égypte à Rome et bien sûr à la Grèce. Donc l'idée, le fil conducteur de l'exposition, c'est d'étudier donc la façon dont les anciens se représentaient le monde divin, et aussi évidemment la vie après la mort, cette recherche d'immortalité qui est quelque chose d'éternel, hein, de l'épopée de Gilgamesh à aujourd'hui. Dans le transhumanisme, on voit bien qu'il y a toujours cette
contre
recherche.
La menace de la mort, la fameuse grande menace.
La menace absolue. Donc c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qui nous est proposé et qui, je dois dire, commence vraiment avec délice quand on est plongé dans la première salle de cette exposition, où on se retrouve en fait finalement dans l'obscurité avec une sorte de cosmos reconstitué au plafond de cette salle. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est vrai qu'à une époque où on est toujours connecté à l'iPhone, au virtuel, eh bien là on se trouve connecté à une autre dimension de l'existence qui était si importante chez les anciens, c'est-à-dire que les anciens étaient constamment connectés au sacré et que du coup on se retrouve plongé finalement hors du temps. On se retrouve dans un dialogue avec des hommes évidemment d'une époque extrêmement lointaine par rapport à nous, mais dont on se retrouve dans leur regard. Je pense au regard d'un Oran mésopotamien du 3e millénaire avant notre ère. C'est quelque chose de troublant de se dire que finalement ces hommes sont très éloignés de nous, mais finalement dans leurs interrogations métaphysiques on se retrouve totalement dans l'échange en fait. Hein. Donc cette première salle est consacrée au Panthéon, à l'aspect de dimension de relation au sacré. La seconde salle est consacrée évidemment à cette recherche d'immortalité, qu'on aille donc de la momification en Égypte au cortège dionysiaque, du côté de Rome. Donc les pièces traduisent bien cette recherche de rite et cette relation justement d'essayer d'amadouer les dieux pour obtenir des récompenses ici-bas. Et puis si c'était possible dans l'au-delà, ça serait très bien aussi. Donc il y a tout cet aspect de relation monnayée. Si je te construis un temple, eh bien à ce moment-là, tu m'accorderas la richesse et la grandeur. Donc c'est très intéressant de voir ça. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans l'exposition, et c'est pour ça que l'exposition est intitulée « Migration divine », c'est que finalement, à travers ce parcours culturel, on voit bien les spécificités de chacune de ces cultures, mais on voit bien aussi qu'au fil des siècles, un dialogue s'instaure entre les cultures. Et que finalement, en voyageant, les commerçants, les soldats, puisqu'à cette époque, c'est quand même une époque aussi de grandes conquêtes militaires, comme à toutes les époques, et bien finalement, les dieux voyagent avec les hommes. Et c'est pour ça, par exemple, que Mithra, qui est originaire de la mer Noire, se retrouve finalement avec une popularité impressionnante du côté du Danube et jusqu'à Rome. Donc on voit ce voyage des dieux et ça m'a beaucoup interpellée de voir cet échange, ce syncrétisme qui se crée. Et ça m'a renvoyée à une interrogation qui est posée avec beaucoup d'acuité à l'heure actuelle, où on nous parle toujours de mondialisation, des problèmes causés par la mondialisation. Et j'ai eu l'impression, en visitant cette exposition, que finalement la mondialisation ne date pas d'hier, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas d'hier non plus, c'est quelque chose de très ancien, et finalement de tout temps, les hommes ont importé, exporté leur culture, avec plus ou moins, évidemment, de plaisir, plus ou moins de bonne grâce. Mais c'est vrai que ce dialogue des cultures a toujours existé et l'identité des peuples, finalement, n'est pas figée. C'est ce qu'on peut voir à travers cette exposition.
Merci beaucoup Virginie. Cette exposition a donc lieu jusqu'au
16 novembre.
Merci beaucoup Virginie. Donc il s'agit d'aller visiter Les Autres Dieux, après avoir lu le livre L'Autre Dieu, dont nous nageons en pleine migration divine. Merci à toutes les deux. La semaine prochaine, je recevrai Éric Romeluer qui nous invitera à nous asseoir, tout simplement, pour entrer dans la méditation zen, avant de vous laisser en compagnie de Frédéric Lenoir pour Chemin de Sagesse. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours.
Nous poursuivons nos chemins de sagesse pour essayer de comprendre ce qu'est le bonheur. Mais avant tout, je voudrais revenir sur un point important. Je vous ai dit la semaine dernière que le bonheur était une aspiration fondamentale de tout être humain. Et en même temps, ce n'est pas parce que c'est une aspiration fondamentale que ce doit être nécessairement le but de la vie humaine. C'est-à-dire, est-ce que, et c'est une question philosophique importante et spirituelle, est-ce que le bonheur doit être poursuivi en tant que tel? Est-ce que le bonheur doit être la fin recherché? Est-ce que le bonheur doit être la quête centrale? Ou est-ce que ça peut être quelque chose qui peut arriver, mais que la quête centrale, que le but recherché peut être autre chose? Là-dessus, il y a un débat très important qui traverse tous les courants spirituels et de sagesse de l'humanité, et je voudrais aujourd'hui parler de quelques personnages qui ne font pas du bonheur le centre de leur philosophie ou de leur pensée. Le premier, c'est Socrate. Socrate est un philosophe qui recherche la vérité, qui recherche la lucidité, et pour lui, la philosophie a pour but de nous rendre plus vrais. Elle a pour but de nous débarrasser de tous nos a priori, de tous nos préjugés, de toute notre ignorance. Le but, au fond, de toute la dialectique socratique, on le voit dans ses dialogues, que Platon a évidemment merveilleusement, certainement enjolivé, mais qui sont quand même très clairs, il s'agit d'arriver à se dépouiller de toutes les couches d'ignorance que nous avons qui nous empêchent de penser juste, de penser vrai. Donc on peut dire que la philosophie pour Socrate est d'abord une quête de vérité. Et cette quête de vérité, qui prend les chemins de la maïeutique, de l'interrogation, nous montre que bien souvent nous pensons vrai quelque chose qui est faux et qu'il s'agit d'abord de nous débarrasser de nos illusions, de nos erreurs de jugement, de nos erreurs de pensée pour acquérir un vrai discernement. Et le bonheur, Socrate ne nie pas du tout son importance, n'est pas pour lui la finalité non seulement de la philosophie, puisque la finalité de la philosophie c'est la recherche de la vérité, mais ce n'est pas non plus la finalité de la vie humaine. Socrate a une hiérarchie des valeurs, et tout philosophe a une hiérarchie des valeurs, ce qu'on appelle en philosophie l'axiologie. Quelles sont les valeurs les plus importantes, et au sein de ces valeurs, quelle est la valeur que nous mettons au-dessus de tout? Pour Socrate, c'est la justice. La justice est la valeur la plus importante, la valeur pratique la plus importante. La vérité est la valeur intellectuelle la plus importante, mais la valeur pratique la plus importante, c'est la justice. Nous devons rechercher toujours la justice, et nous pouvons renoncer à notre propre bonheur si la justice l'exige. C'est ce qu'il a lui-même montré, puisque lorsqu'il est arrêté, qu'on lui demande, qu'il est jugé, condamné, qu'on lui demande de mourir, de boire la ciguë, ses disciples lui disent « Enfuis-toi, tu as le temps, tu peux partir, tu peux te sauver, on peut organiser ton évasion. » Et Socrate refuse, puisqu'il a toujours dit qu'il fallait obéir aux lois de la cité, fussent-elles mauvaises, fussent-elles injustes, puisque si on commence à juger qu'on peut désobéir ou pas aux lois de la cité ne peut plus fonctionner. Et donc il faut appliquer la loi. Et Socrate va accepter de mourir, alors qu'il aurait pu vivre heureux en se sauvant, mais non, il n'aurait pas peut-être d'ailleurs été si heureux que ça, puisqu'il n'aurait pas obéi à sa conscience, ce qui montre bien qu'il y a quand même peut-être un bonheur présent. Même dans le refus du bonheur, il peut y avoir quelque chose qui nous dit qu'un individu qui vit selon sa conscience, en paix selon sa conscience, sera plus heureux qu'un individu qui recherche une forme d'épanouissement qui ne serait pas en conforme avec ses idéaux. En tout cas, Socrate nous dit que le bonheur auquel il renonce, cette vie à laquelle il renonce, c'est le sacrifice à payer de son choix éthique fondamental qui est la justice. Et il dira à ses disciples, finalement, le bonheur, je l'espère, dans l'au-delà. Mon âme sera, parce qu'elle est juste, parce qu'elle a été fidèle à ses valeurs, mon âme sera heureuse avec la compagnie de toutes les nobles âmes qui sont dans l'au-delà. Donc finalement, c'est une forme de bonheur différé. Ce qui compte sur terre, c'est d'être fidèle à ses valeurs. On va retrouver quasiment la même chose avec Jésus. Jésus est très proche de Socrate et c'est deux personnages que j'aime beaucoup comparer. Jésus est mort également au nom comme Socrate, au nom de la fidélité à ses valeurs, il n'a aucune envie de mourir. Jésus le dit très clairement, mais il veut absolument être fidèle à la vérité de son message. Et il refuse ou de changer son message pour éviter de contester et de créer un trouble qui pourrait amener à sa condamnation, puisqu'il est mort à cause de son enseignement qui contestait profondément le clergé, les grands prêtres de l'époque, et son enseignement était révolutionnaire, n'était pas audible par ceux qui détenaient un pouvoir ecclésial. Et donc finalement, il aurait pu changer son enseignement, il aurait pu arrêter de parler, il continue jusqu'au bout, alors qu'il sait très bien qu'il va en mourir. Il n'a pas envie de mourir, il préfère le bonheur et en même temps, plus important que le bonheur, continuer à affirmer la vérité pour laquelle il est venu. Il dira à Pilate, je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est donc cette recherche de la vérité qui l'anime. Et puis l'amour pour lui est au-dessus de tout. La valeur centrale, concrète, pratique, c'est l'amour. Et donc, puisque en allant jusqu'au bout et en donnant sa vie, il pense qu'il va sauver les hommes, c'est la certitude qu'il habite, à ce moment-là, effectivement, il est plus important pour lui de sacrifier son épanouissement humain immédiat en vue d'un bien beaucoup plus grand. Et comme Socrate, il croit évidemment en la vie éternelle, c'est-à-dire la possibilité d'un bonheur différé, un bonheur dans l'au-delà, dans le royaume, et qui amène à faire des choix dans cette vie dans lequel on peut sacrifier un bonheur terrestre. C'est ce qui inspirera ensuite, à la suite de Jésus, l'action de bien des saints qui préféreront mourir martyr, mourir crucifié également, ou par toutes sortes de souffrances, plutôt que de renoncer, de trahir leur idéal, ou de renoncer à des actes de charité. On verra d'ailleurs bien au-delà du christianisme, des individus dans tous les temps, dans toutes les époques, qui vont au nom d'un idéal renoncer à leur bonheur pour le bien des autres. Je pense aux résistants pendant la guerre, qui ont mis leur vie en danger, qui parfois sont morts, parce qu'ils estimaient qu'il était important de se battre pour la justice et de se battre pour la liberté. Et donc tous ceux qui mènent un combat au nom de la justice, au nom de l'amour, au nom de la liberté, comme l'ont fait aussi Gandhi, Martin Luther King et plein d'autres, Nelson Mandela et plein d'autres, quelle que soit encore une fois leur religion, leur croyance, sont des individus qui effectivement font passer une autre valeur comme but principal de la vie humaine que le bonheur.
Dans un instant, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.